1, 2, 1, 2. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
La musique n'a pas changé, qu'elle est comme dans l'ancien temps. Un mélange de liberté organisée et d'organisation rigoureuse.
Tout parti pris est à l'origine une révolution, donc un acte essentiellement libre.
Liberté, révolution, notre invité de ce soir nous dira ce qu'il y entend, lui, le compositeur, organiste et improvisateur Thierry Esquèche. Bonsoir.
Bonsoir.
Portrait en présence de Thierry Esquèche ce soir dans Continent Musique, puisque vous êtes l'invité du festival Présence de Radio France, où l'on joue tout un panorama de vos œuvres. Sera créé notamment votre concerto pour alto avec Antoine Tamestit. Thierry Esquèche, ce que disait à l'instant Olivier Messiaen, Antoine Goléa, ce qu'on entendait, c'est toujours vrai pour vous ?
Ah bah évidemment, la musique c'est un mélange de rigueur et c'est un mélange de recherche de liberté. Et d'une certaine manière, c'est rendre une œuvre d'art, l'émotion artistique, c'est rendre du sensible intelligible ou de l'intelligible du sensible. C'est l'alliance entre les deux. Donc c'est ce qu'on recherche. Alors est-ce que l'art doit être absolument une révolution ? Est-ce que vraiment il faut absolument tout casser quand on écrit et faire table rase ? Non. Mais par contre, oui, c'est construction, c'est important comme une architecture. Et puis trouver à l'intérieur de cette architecture une liberté, mais c'est valable dans tous les arts.
On vérifiera notamment par vos compositions, on pourra entendre différents extraits ce soir pour donner une idée du répertoire qui sera proposé pendant ces 6 jours de présence. Et puis nous entendrons aussi l'orgue que vous connaissez bien, l'orgue de Radio France, et Thomas Hospital, qui lui non plus ne vous est pas étranger. Thomas Hospital qui nous a présenté le grand instrument au centre de l'auditorium de Radio France. Allez, on commence par l'orchestre. Salmos, une composition plutôt récente, ça date de 2016.
Oui, créée à Cincinnati, sous la baguette de Louis Langrée, effectivement. C'est une sorte de concerto pour orchestre, où chaque pupitre un peu devient est à l'honneur à un moment donné.
Alors, question de forme, psalmos, on pense au psaume, mais ce qui ressemble à une sorte de symphonie concertante, ça reprend surtout la forme de chorale luthérien, mais... Vous n'êtes pas un compositeur croyant, Thierry Esquèche.
Mais je suis pas un compositeur, en fait. Si, j'ai une recherche de transcendance, ça c'est ma part intime, personnelle. Mais en fait, quand je me sers de ces chorales ou du grégorien dans d'autres pièces, c'est rarement des citations. Des citations complètement déformées. C'est, en fait, je prends un matériau qui a été exploité depuis des millénaires, et moi j'ai besoin de prendre ce matériau qui a vécu. Ces chorales, ils sont nés au 15e ou au 16e, ils ont été transformés par Bach, ils ont été transformés par Liszt, ils ont été transformés par des tas de gens, par Stravinsky, et moi je les reprends comme si je façonnais un matériau qui a déjà servi. C'est vraiment cette histoire de l'héritage, et que moi je vais essayer de transformer aussi. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de signification. Là, dans ce que viennent d'entendre les auditeurs, c'était un choral lié à l'avant. Enfin, il n'y a rien dans la pièce fait partie spécialement à l'avant. C'est le parler de l'avant. C'est vraiment plutôt les courbes, les courbes qui m'intéressent, et puis ce que ça a symbolisé, la façon dont ça s'est déformé et comment moi je me situe après. C'est ça en fait, c'est cette histoire de ce matériau qui m'intéresse.
Un portrait, c'est le titre de cette édition du Festival Présence 2018 qui vous met à l'honneur, Thierry Eskech. On n'a pas toujours en tête la tête ou le visage des compositeurs aujourd'hui. Autrefois, dans les années 80-90, vous vous souvenez, il y avait Debussy qui était sur le billet de 20 francs avec la mère derrière lui. On a l'esprit, la photo de Berlioz en jaquette avec sa coiffure romantique, la tête posée sur sa main. Comment est-ce que vous regardez ce portrait de vous qui est ici? Je vous laisse le décrire, tiens.
Alors, c'est un portrait pour faire les publicités à Radio France qui a été pris en face de Radio France déjà. Donc voilà, la publicité est passée. Non, c'était ça doit me ressembler. Je déteste me regarder en photo comme beaucoup de gens qui sont sur scène, mais ça doit me ressembler. Il y a un côté il était venteux, je suis une sorte de personnage noir issu d'une montée comme ça d'un écran qui perdu dans les nuages un peu, les nuages sombres sont juste au-dessus de moi. Ça donne un côté, il y a un côté je pense un petit peu sombre dans ma musique, même quand c'est rythmé. Mais il y a un côté un peu ambigu. C'est jamais. Et je pense il y a ce côté un peu ambigu, noir, romantique et ambigu. Ça serait ça, si ça fonctionne de cette manière.
Et ça correspond à votre musique finalement ?
C'est ce qu'on dit. Moi j'ai du mal parce que souvent je me dis tiens, je fais une chose hyper joyeuse, alors je suis content, je fais une improvisation d'orgue, j'ai l'impression que ça pétille de joie. Et je dis oh là, j'étais angoissé pendant 15 minutes, mais il y a personne qui allait écouter, ou vice versa. Donc c'est différent. Vous savez, quand vous faites quelque chose, souvent ce que vous faites passer n'est pas forcément ce que vous avez voulu y faire passer. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et donc moi c'est vrai qu'on me prend plutôt pour une sorte de post-romantique un peu noir, un peu voilà, passé par Berg, je ne sais quoi. Il serait que la photo là elle a quelque chose de ça.
Alors vous êtes né Thierry Eskech le 8 mai 1965 à Nogent-sur-Marne. Voilà, ça c'est pour le CV. Ouais. Enfance à Rosny-sous-Bois, où vous vivez toujours d'ailleurs, hein, ouais. En Seine-Saint-Denis. Ce qui ne veut pas dire que vous ne voyagez pas. Hein. D'ailleurs, vous êtes amené à voyager beaucoup en tant que compositeur. Qu'est-ce qui vous convient dans cet endroit où vous avez grandi ?
J'ai vraiment le changement. Il est comme beaucoup d'artistes, il est dans la tête. Donc je veux dire, j'ai pas besoin de changer, d'être dans une ville où je me sentirais mieux, parce qu'au Rosny, ça n'a rien de voilà, de spécialement mieux que d'autres banlieues, que d'autres villes. C'est une ville un peu, c'est un repère familial. Ma famille y était avant. Je suis resté là parce que voilà, parce que comme vous le dites, je voyage beaucoup. Je suis tout le temps par Monts et par Vaux parce que la musique, ça voyage. Hein, c'est, il y a pas de langage, un langage qui est compréhensible par tout le monde. Donc je passe la moitié de mon temps hors de Rosny-sous-Bois, ça c'est sûr. Et puis voilà, je suis quelqu'un qui a besoin artistiquement d'une certaine assise, d'un certain héritage. Et ben j'ai aussi besoin d'une certaine assise à Rosny-sous-Bois, même si c'est pas tellement le lieu où je compose. Où je compose plutôt dans les hôtels, dans les avions, un peu partout. Je compose dans la vie. Et puis je me libère un peu de la vie parisienne, justement en proche banlieue, dans une maison. Et ceci ma façon un peu de me libérer, voilà.
Votre père était gendarme, votre mère institutrice, les deux catholiques pratiquants. Dans quelle musique est-ce que vous allez grandir, Thierry Eskech ?
De la musique d'église. Parce que voilà, c'est évidemment, quand on m'y emmenait, j'écoutais ça. Alors, comme un enfant de 5 ou 6 ans, vous savez, vous écoutez des cantiques, ça vous dit pas forcément grand chose. Et ce qui est passionnant, c'est que, mais c'est là que j'ai découvert l'orgue, puisque j'entendais ces cantiques chanter. Et puis, après la messe, je restais, puis j'improvisais, à l'harmonium. Et puis, quand on m'entendait improviser, on dit, mais puisque tu le fais après les messes à l'harmonium, mais pourquoi tu le ferais pas au grand orgue? Et donc, enfin, le grand orgue était pas un grand orgue, mais bon, c'était pas celui de la radio, je vous rassure.
Quand on est petit, il est très grand.
Et voilà, c'est ça. Quand il est petit, pour moi, c'était carrément Notre-Dame de Paris. Donc, j'avais Notre-Dame de Paris. Et puis après, j'ai fini par être invité à jouer à la tribune. Et c'est comme ça que j'ai mis mes premiers élans organistiques en jeu, en improvisant, en accompagnant ces cantiques. Donc, mon premier contact avec la musique, ça a été un peu ces cantiques, dont certains étaient bons, certains étaient épouvantables, mais ça, c'est ça, mon premier amour de la musique.
Thank you.
Jeannette de Gus Wieser par Richard Galliano à l'accordéon. Et c'est vous, Thierry Eskech, qui êtes ici à l'orgue. Mais vous auriez pu le faire, l'accordéon, parce que c'est votre premier instrument.
Oui, oui, ça a été mon premier instrument. Alors, j'aurais pas pu jouer comme Richard, ça c'est sûr. Mais par contre, oui, j'ai commencé par ça. Donc, c'est marrant parce que ce disque, d'une certaine manière, c'est un peu l'union des deux choses qui m'ont marqué quand j'avais entre 4 et 7 ans, en fait, hein, la découverte de l'orgue vers 6-7 ans. Et puis avant, la découverte de cet instrument, l'orgue du pauvre, d'une certaine manière, l'accordéon, qui est d'ailleurs très proche de l'harmonium, hein, c'est les mêmes instruments pratiquement. Donc c'est assez normal que j'étais à l'harmonium après pour essayer l'orgue. Donc il y a vraiment une transition sonore qui se fait, c'est le même principe, en fait. Et voilà, on tire le soufflet avec les mains d'un certain sens à l'accordéon, puis on pédale à l'harmonium. Donc c'est vraiment on fait soi-même son souffle. Donc vraiment, pour moi, c'est une sorte d'union. Et donc cette rencontre avec Richard, pendant longtemps après, quand j'ai fait des études sérieuses, les contrepoints, les fugues au conservatoire, j'ai délaissé l'accordéon parce que c'était pour moi, ça n'est plus très bien. C'était un instrument du passé, c'est un instrument du musette, tout ça. Et quand je trouvais mon style de compositeur, j'avais besoin de faire une rupture. Et puis après, progressivement, en rencontrant des gens comme Richard, je me suis dit, mais pourquoi pas au bout du compte? Ça fait aussi partie de mon univers. Et ça, d'une certaine manière, c'est Gus Wieser ou c'est Vershawn, je sais quoi, ils ont des réminiscences dans ce que je peux faire maintenant dans Psalmo. Il y a des choses qui sont transformées. Donc pourquoi pas jouer avec lui? C'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a fait ce disque.
Plus de honte par rapport à l'accordéon?
Non, c'était même pas une honte. C'était un désir. Voilà. Il fallait que je m'extirpe de ce qu'avait été ma première formation pour pouvoir aller au-delà. Mais maintenant que j'y suis, voilà, j'ai composé des pièces, un certain nombre de pièces. Voilà, maintenant, je peux revenir à mes racines et puis intégrer d'une certaine manière ce que je fais, intégrer cet instrument à ce que je fais maintenant. Et beaucoup de pièces, même certaines seront jouées à Présence cette semaine, celles qui ouvrent Présence, et d'ailleurs avec accordéon. Alors c'est pas musette, mais c'est quand même une grosse partie d'accordéon.
Mais surtout, ça traduit, puisqu'au départ, vous êtes, pour l'accordéon, un autodidacte, Thierry Eskech, hein, et vous avez, je crois que, par votre famille, vous allez souvent dans l'Ariège, pendant les vacances, donc vous êtes enfant jusqu'à vos 20 ans, je crois, vous jouez dans des balles, en fait, vous faites danser les gens. Ça, pour un compositeur, c'est extrêmement important, puisque c'est tout de suite, et vous aviez commencé à composer très tôt, ça donne un rapport au public, aux gens qui vous écoutent, singulièrement différent.
Oui, je pense que ça a déterminé en fait les positions que j'ai pu prendre dans la musique, même d'aujourd'hui, la création. Je n'ai jamais pu complètement, même si j'ai fait moi-même mes propres recherches, mais j'ai aimé des compositeurs dont certains étaient quelquefois d'avant-garde ou autre, je n'ai jamais vraiment coupé tout ce qui pouvait parler à un public quand même assez large. Moi, je suis quand même toujours ce gamin de 9 ou 10 ans qui essayait de faire danser les gens et qui a une certaine de transmettre des choses, une certaine énergie. Et je pense que ça a été fondamental même pour les choix esthétiques que j'ai pu faire. Je pense qu'il y a des choix esthétiques que j'aurais fait si j'avais pas été instrumentiste, si j'avais pas été dans la scène, qui n'auraient pas été les mêmes. Et moi, je suis plutôt justement pour qu'on retrouve des compositeurs, et je suis pas le seul, qui sont des gens de scène et ils feront évoluer la musique qu'on fait différemment. Faut pas oublier qu'à une époque, que ce soit, si vous pouvez citer beaucoup de compositeurs, vous qui n'ont pas été des artistes de scène, que ce soit Bach, Mendelssohn, Chopin, j'en connais pas beaucoup, hein, j'en connais aucun pratiquement. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment où...
Et même beaucoup qui étaient de grands virtuoses.
Oui, alors, sans compter ceux qui étaient carrément des phénomènes. Mais en dehors même de ces phénomènes, même Ravel joue du piano très bien, il pouvait jouer en concert. Donc, je veux dire, c'est après que le compositeur un peu rentré, et souvent, il y a une séparation, le compositeur du papier, de l'écrit, et puis celui qui interprète. Mais il y a un danger à faire ça. Il y a un danger de s'isoler, il y a un danger donc d'isoler ce qu'on fait, et de créer quelquefois, aller un petit peu trop vers l'abstraction, même si une certaine abstraction, c'est bien aussi.
Voilà. Il y a eu des architectes de papier, par exemple. C'était important aussi.
C'est important à certains moments, mais attention, on est allé très loin, là, nous, dans l'écriture de le papier pour les compositeurs. Hein, quelquefois, les œuvres, dans les années 60, c'était plus des peintures que des pièces à jouer, d'une certaine manière. Et donc, c'est là qu'il faut faire attention.
Alors, quand on parle de composition, on parle de règles, d'organisation. Écoutez ce qu'en disait Serge Nigg.
Quand tout éclate, je pense que le véritable artiste ne songe qu'à une seule chose, c'est à se recréer une logique. Et à se recréer un langage et un vocabulaire. Parce qu'on ne peut rien exprimer sans vocabulaire et sans langage. Le reste n'est que de l'anarchie et de la fantaisie. C'est assez curieux de la part des compositeurs, cette espèce de va-et-vient entre le fait de vouloir rejeter ce qui existe, et quand ça n'existe plus, vouloir retrouver quelque chose d'autre, de nouvelles chaînes. Et je pense que ces chaînes sont très nécessaires à un artiste. Nous avons tous besoin d'une très grande discipline sur nous-mêmes, sur notre technicité, sur notre inspiration. La véritable liberté, c'est pas d'écrire n'importe quoi, car ça, c'est le pire des esclavages. La plus grande des libertés, c'est d'être maître de ses moyens. Une fois que l'on est maître de ses moyens, on peut infiniment plus facilement dire ce que l'on a envie de dire. Quand on n'est pas maître de ses moyens, on peut créer ce que j'appelle les essences irréductibles, c'est-à-dire ces petits fragments miraculeux quelquefois que l'on trouve dans la musique, tel passage unique. Je ne parle pas de thème, là. Je parle de ces essences qui sont quelquefois un seul accord et qui vous donnent tout le sens d'une œuvre. Quelquefois un simple mélisme qui vous donne tout le sens d'une œuvre et autour duquel toute l'œuvre est construite. Donc c'est autre chose que des thèmes, autre chose que des sujets, c'est souvent des impressions vides, des rencontres extraordinaires que je pense au Martyr Saint-Sébastien, il y en a beaucoup dedans, dans Debussy il y a énormément de ces essences irréductibles. Je pense que celle-ci va être bien présentée s'il n'y a pas tout autour de là un travail technique considérable qui ne servira qu'à la présenter sous son aspect le meilleur et le plus discernable.
Le compositeur et professeur, c'était votre prof d'orchestration, Serge Nigg, là on l'entendait en 1976 sur France Culture. Il y a des essences irréductibles qui vous viennent à l'esprit, Thierry Escache?
Oui, c'est, on peut les appeler des jaillissements, des illuminations, plein de choses. C'est un paysage, c'est, Nietzsche disait, le chaos intérieur qu'on essaie de mettre en forme. C'est des choses qui sont... Et le problème, effectivement, ce que dit très bien Serge Nigg à ce moment-là, c'est qu'après... Il faut les mettre en forme. Ce sont des idées souvent qui sont assez vagues, ce sont des pulsions d'une certaine manière, presque des pulsions, on va dire. Il y a quelque chose qu'on découvre sur le moment. Ces pulsions, faut les, pour qu'elles soient perceptibles par l'auditeur, parce que nous, on a besoin de les mettre, de les faire jouer par quelqu'un, il faut les trouver le bon rythme, les bonnes harmonies, les bons timbres, la bonne orchestration, pour pouvoir être suffisamment efficace, ces moyens-là, pour les faire passer à l'auditeur. Et ça, c'est le métier. Donc il faut à la fois ces sortes de pulsions animales, d'une certaine manière, qui font... Et puis l'étape du métier, qui, si elle n'est pas là, effectivement, on peut avoir de très belles pulsions, mais elles ne passeront pas, pour les rendre efficaces, perceptibles par le public, il faut vraiment ces deux phases-là. Si c'est pas... Ce qui est vraiment quelqu'un qui est quelqu'un d'assez fort, c'est quelqu'un qui a une esthétique assez forte, c'est quelqu'un qui a cette base solide sur les deux points. Pas juste du métier, sinon c'est de l'académisme, et pas juste que des espèces de pulsions sauvages, parce qu'au bout du compte, c'est une sorte de poésie, mais qui sera complètement hermétique, parce qu'on ne trouvera pas les moyens de la faire passer.
Ce que disait Serge Nigg aussi, c'est que finalement, si on prend un autre exemple que dans la musique, par exemple dans le cinéma, finalement, ce qu'il appelle lui les essences irréductibles, ce serait voilà, quelques notes comme ça, autour desquelles on organise tout, mais en fait l'essentiel, le concentré de ce qu'on voulait montrer là-dedans. Dans le cinéma, ce serait finalement, le réalisateur s'aperçoit qu'il y a un plan qu'il avait vraiment envie de faire, et que... toute l'entreprise du film est destinée à réaliser et à mettre en valeur ce plan-là.
Oui, mais dans ce cas, effectivement, ce plan que vous allez trouver, ce visage chez Visconti du héros qui finit devant complètement avec le phare qui coule sur le visage, par exemple, voilà, on sent que tout le film est fait pour arriver à cet aboutissement final, mais ça veut dire qu'il va trouver une forme, et ce plan qu'il veut faire, ou cette couleur, ce mélange de couleurs que veut faire Van Gogh ou tel Turner, ce qui est absolument passionnant, c'est qu'il va justement, il va falloir, à partir de ça, c'est le jaillissement, il faut maintenant trouver le mettre en forme dans une forme plus longue. Et ça, après, c'est tout le travail de construction pour arriver à ce but poétique, oui.
Who is that boy? A boy.
Mi hai seduto. E io mi sono lasciato seduto. Devo partire. Domani.
Ma ciò che invece tu stesso mi hai dato, l'amore nel vuoto della mia vita, lasciandolo, lo distruggi tutto. Che può sostituirti, credo che io non potrò più vivere.
Io non riesco più a riconoscere me stesso. Che cosa sarà di me d'ora in poi? Hai distrutto semplicemente... l'idea che ho sempre avuto di me.
Alors Thierry Escache, en quoi est-ce que Théorème, dont on entend ici un extrait de la bande-annonce, a pu être important pour vous? Vous dites souvent que le livre, puis le film de Pasolini, ont été très importants.
Cette part du cinéma italien, pas seulement Pasolini, mais Visconti et puis Antonioni aussi, ils ont été un moteur pour l'imagination. C'était la plus grande période du cinéma italien. Bon, après, on peut pas dire qu'il en reste grand-chose depuis. Et puis surtout, ce film-là, principalement, pour moi, c'est un opéra. Il est vraiment construit comme un opéra, avec trois actes. Il est construit avec même des superpositions d'écran. Vous avez une partie de le héros qui court dans le désert à la fin, puis vous avez la vie dans l'usine. Vous avez des superpositions, comme on aimerait avoir des superpositions de plans musicaux. C'est un film complètement musical, je veux dire. Alors, il peut y avoir du Bach ou du Mozart dans la bande, mais c'est même pas ça. C'est le problème, c'est qu'il est construit comme un film vraiment musical. La langue aussi est musicale, parce qu'on l'entend en italien. Et puis il y a Pasolini. Il y a tous ses doutes. Toutes ces interrogations, il y a tout cet élan vers la chrétienté et puis ce qu'il retenait, le communisme, il y a plein de choses. C'est cette lutte à l'intérieur. Moi, j'aime Pasolini parce que c'est un personnage où il y a ces luttes internes qu'on sent, qu'on voit à l'image, poussées à l'extrême dans Théorème.
Dans la sensualité, notamment.
Dans la sensualité, mais ça, voilà. Et c'est pour ça que je pense que ça a été moteur. Et d'ailleurs, je me souviens d'avoir mis la fin de Théorème en exergue d'une de mes pièces, qui doit être la première symphonie. C'est pour ça que je l'appelais Kyrie d'une messe imaginaire, parce qu'il y a un côté. Ce cri qui est fait par le héros à la fin, et je me souviens, écrit, on ne sait pas si c'est la gueule d'un fauve qui crie, ou on ne sait pas si c'est un prieur, un blasphème. Il y a toute cette noirceur, cette ambiguïté, cette ambivalence qui m'intéresse chez Pasolini.
Alors Thierry Esquèche, il vous arrive aussi d'improviser avec le cinéma muet, notamment avec L'Aurore de Murnau. Comment vous procédez pour improviser? Puisque évidemment, quand on pense improviser, il ne s'agit pas du tout de faire n'importe quoi. On s'est organisé au préalable.
Je le fais justement cette semaine. Cette semaine, je vais, alors, entre tous les concerts de présent, je vais me libérer quelques heures et aller à l'Infirmerie de Paris, où je vais improviser sur La Divine, qui est un des plus grands, je pense, le plus grand film chinois, qui nous est d'ailleurs un des seuls qui est vraiment arrivé maintenant. Et donc, je suis en train de redécouvrir le film. Là, je l'ai regardé une fois. Je vais le regarder encore deux, trois fois pour voir à peu près quels sont les enchaînements de scènes. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pas me laisser piéger. Je veux pas mettre, on va pas me dérouler le film. Je vais pas découvrir le film en même temps parce que je peux faire des erreurs. Quelquefois, il peut y avoir un flashback, quelque chose. Il faut comprendre ce qu'a voulu faire le cinéma. Et après, moi, je vais essayer de renforcer la forme du film. Quelquefois même prendre une distance, tout à fait. Je regarde cette scène. Comme je sais où ça va aller, eh ben, je ne vais pas faire une scène d'action alors qu'on attendrait de la musique d'action. Je vais plutôt le regarder un peu comme justement, Pasolini, ces deux vieux qui regardaient par le l'électro du château les orgies se faire. Ben, je vais être un peu celui-là, je vais être un peu ces deux vieillards lubriques en train de regarder se faire, se dérouler le film. Donc voilà, donc il faut le regarder deux, trois fois. Mais ça reste par contre de l'improvisation, c'est-à-dire que je ne prépare rien musicalement, mais je prépare la construction du film. C'est quand même un dialogue entre moi et le réalisateur qui, là, en l'occurrence, est mort, donc c'est relativement facile.
Thank you.
Scène de bal, Pourquoi tu or, ça c'était le disque Chorus qui est paru en 2003 chez Accor. Une de vos compositions, Thierry Esquèche, donc au début des années 2000, c'était pour le quatuor Isaïe. Ce qu'on entend, c'était censé être dans le style disco.
Oui, c'est évidemment, c'est ce que je retiens moi en fait, c'est une espèce de pulse avec des accords un peu contrariés. Et en fait, le problème, c'est quand on s'empare d'une idée un peu disco, qu'est-ce que c'est? On garde, voilà, je garde cette basse obstinée et puis avec des accords qui viennent. Et puis après, mais dès que j'ai fait le premier accord, je l'identifie à moi et ça part dans ma vision disco, ma déformation. Je crois que vous mettez un peintre, Van Gogh voulant faire une cathédrale, vous le mettez, il fait du Van Gogh d'une certaine manière. Je pense que quelqu'un qui, un compositeur qui va s'emparer d'une danse, alors on a de très beaux exemples avec Stravinsky, avec le tango ou avec plein de choses, dès qu'il va faire ça, il va s'en emparer et puis il va déformer. Évidemment, je vais pas faire une citation de discours que je pourrais faire, évidemment, puisque j'en ai accompagné quand j'étais jeune. Mais bon, ça serait moins intéressant pour moi.
Alors je reviens sur votre parcours, Thierry Esquèche, vous avez fait avoir animé des bals dans l'Ariège et puis été au conservatoire à Rosny-sous-Bois. Vous allez suivre des études au conservatoire national à Paris. Vous allez recevoir 8 premiers prix. À ce moment-là, quand vous faites vos études, on est au milieu des années 80, il y avait des combats esthétiques assez violents quand même entre les tenants d'une musique post-sérielle, hein, Pierre Boulez est encore extrêmement influent, et de l'autre côté, une école plutôt néo-tonale. Mmh. Comment vous vous situez à l'époque?
Bon, en fait, je me suis pas situé, on m'a situé. C'est-à-dire que, comme d'habitude, d'ailleurs, ça continue. C'est même pas néotonal, c'est tonal, simplement. Moi, je viens de la, je pense que la musique, elle est modale, elle est même pas tonale. Tonale, c'est qu'un passage. C'est ce qui s'est passé dans la modalité. Les modes se sont transformés en tonalité. Et puis, maintenant, les premiers cours de composition que je fais, moi, ou d'improvisation, ce sont l'étude des modes anciens, des modes grecs, voire de certains modes éthiopiens et autres, ou de certains modes vraiment qui ont été ancrés, qui ont ancré la tradition. Et on repart de là. Donc pour moi, c'est ma musique. Et je pense vraiment que la musique restera de toute façon. D'ailleurs, elle l'est maintenant. Tout le monde est revenu par une certaine modalité, même les tenants de l'avant-garde de l'époque. Donc ça veut dire qu'il y avait une nécessité de le faire. Alors dans cette année-là, effectivement, moi je me suis pas posé de problème. J'écrivais ce que je voulais. J'ai regardé ce qui se passait autour de moi. C'est-à-dire que c'était intéressant au conservatoire de voir des amis qui étaient dans ces branches-là. Et j'ai pas du tout regardé ça avec mépris. Il y en a dont j'étais très très proche, que j'aimais beaucoup, qui faisait une musique qui était très différente. Certainement, ça m'a aussi inspiré. Je suis pas du tout complètement autiste à tout ce qui s'est passé, mais moi je sais que j'avais quelque chose que je commençais et que je sais que je n'aurais pas changé esthétiquement pour être à la mode à l'époque. Mais de même que dans l'autre sens, quand tous ces mêmes compositeurs se sont mis à réintégrer progressivement les règles de la tonalité, de la modalité, moi j'ai pas bougé pour autant. Je suis pas allé dans un sens ou dans un autre. Moi j'ai toujours resté dans la même voie jusqu'à maintenant, jusqu'aux dernières pièces qui sont jouées à présent là. J'espère que le style a un petit peu évolué parce qu'il s'est passé plus de 20 ans. Mais par contre, moi j'ai pas bougé. J'ai une décision esthétique, donc j'allais pas bouger à l'époque, bouger maintenant. Vous savez, après tout ça, c'est une histoire aussi de mode, d'appartenance sociale. Moi je vois pas faire de la composition. Pour moi, c'est pas une appartenance sociale. Je suis pas socialement compositeur. Je suis pas un professionnel dans la composition. Je suis un artiste qui compose. Je m'exprime par la composition, je m'exprime par l'improvisation, je m'exprime aussi par la pédagogie, par l'enseignement, je parle plein de choses. Je passe de Galliano à la musique contemporaine à plein de choses. Donc ça me libère d'une certaine manière. Je pourrais très bien vivre de la composition complètement maintenant parce que je suis joué à peu près partout, enfin où je veux être joué. Ça, c'est pas le problème. Mais justement, j'ai besoin de faire des tas de choses. Donc je ne vis pas, j'ai pas besoin de démontrer socialement que j'appartiens à telle esthétique, tel courant. Donc je laissais faire les batailles entre Boulez et Landowski à l'époque avec un regard amusé, quelquefois agacé. Alors c'est vrai que moi j'étais évidemment, on me mettait dans le camp tonal, ce qui est vrai, puisque la base de ma musique est essentiellement modale, effectivement. Donc je suis tout à fait, et je l'assume complètement. Mais c'est ma vision de la modalité, ce qui n'est pas la même que d'autres compositeurs. J'ai fait mon style avec ça. Et je dis pas néotonal parce que je pense qu'il n'y a jamais eu d'arrêt de cette provision. Ça continue, Britten, Shostakovich, tous ces compositeurs ont continué à écrire. Nous, il y a eu en France ou en Europe un mouvement effectivement de table rase avec les secondes écoles de Vienne qui a laissé quelque chose assez belle d'ailleurs, mais auquel je n'ai pas participé et auquel je n'adhère pas. Pour autant, la musique tonale ne s'est jamais, la musique modale ne s'est jamais arrêtée. Et elle continuera et c'est comme ça qu'elle finira. Elle finira modale.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Votre activité de musicien, Thierry Esquèche, elle tient aussi à l'activité de professeur. Je vous propose qu'on écoute un musicien qui a été votre élève. C'est Thomas Hospital. Vous avez été son professeur au conservatoire en improvisation, en fugue et en forme. Thomas Hospital qui nous a reçus juste à côté d'ici, dans l'auditorium de Radio France, pour nous faire entendre l'orgue de Radio France.
Bonjour à tous.
Alors, je vous laisse.
Et très bien, je vais mettre mes chaussures
parce que c'est très important.
Sinon, sans mes chaussures, je peux pas jouer.
Est-ce qu'il faut mettre des chaussures spéciales?
Il faut mettre des chaussures spéciales pour jouer. Non, c'est plutôt des sortes de répéto avec des talons un peu plus importants. Donc, je suis bien obligé de les mettre, sinon ça va être plus difficile pour jouer. Voilà.
Thomas Hospital, merci de nous accueillir ici dans l'auditorium de Radio France. Et nous voici devant le... Comment je dois appeler le... C'est pas le clavier quand même?
Alors,
Parce que c'est les claviers.
Oui, absolument. Alors cette partie donc vous voyez là où l'organiste joue avec les claviers, tous les boutons, le pédalier, c'est ce qu'on appelle la console. Et en fait, ici à Radio France, il y en a deux. Il y en a une qui est, comme vous le voyez, sur la scène, donc qui permet de jouer avec d'autres instruments, comme par exemple pour le concert dans le cadre de présence, où je serai avec un pianiste et également une accordéoniste. Et vous en avez une autre qui est dissimulée là-haut, au-dessous du buffet de l'orgue, là où sont les tuyaux, juste au-dessous, vous avez une sorte de porte qui se coulissante, qui se ferme, et à l'intérieur de laquelle il y a une deuxième console qui, celle-là, est mécanique.
Thomas Hospital, c'est un autre point commun avec un autre orgue sur lequel vous jouez, c'est celui de l'église Saint-Eustache à Paris, puisque en 2015, à l'âge de 25 ans, vous étiez nommé co-titulaire du grand orgue de l'église Saint-Eustache. Et puis ensuite, l'année suivante, vous avez été le premier organiste en résidence sur ce nouvel instrument devant lequel nous nous trouvons dans l'auditorium de Radio France. Évidemment, comparaison n'est pas raison, mais comment est-ce que vous pourriez nous décrire cet instrument en rapport de celui de Saint-Eustache?
Alors, les deux instruments sont relativement différents. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent dans un écrin tout à fait différent. Celui de Saint-Eustache, donc vous connaissez cet édifice qui est en plein centre de Paris, qui est une église très très haute avec ses 33 mètres sous voûte, donc avec une très très grande réverbération. Et cela a vrai qu'un rapport très différent au son. Ici, à Radio France, on est dans une acoustique qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus analytique et qui permet naturellement d'avoir une définition beaucoup plus nette de tous les détails ou du jeu de manière générale. Donc c'est sans doute là qu'est la différence. La différence aussi, c'est que cet instrument ici à Radio France a réellement été conçu, bien sûr, comme un instrument soliste, mais aussi comme un instrument qui puisse être un instrument de l'orchestre. Et dans ce sens-là, c'est un instrument qui a énormément de possibilités dynamiques, allant du plus petit piano au plus forte des tutis, avec toute une gamme et une palette de couleurs, ce qui permet d'être extrêmement flexible, d'avoir un son d'une grande flexibilité, notamment lorsqu'on est amené à jouer avec les chœurs ou les orchestres ou les différentes formations de la Maison de la Radio.
Je vous propose de nous faire entendre justement cette variété. Alors je crois qu'il y a plus de 20 000 possibilités de sons, donc on va peut-être pas toutes les faire entendre. Mais...
Non, naturellement. Mais écoutez, je peux vous faire une sorte de millefeuille de différentes couleurs, et puis voilà, vous entendrez quelques couleurs spécifiques, et puis une sorte de crescendo qui vous fera entendre des sonorités les plus douces à un tutti un peu rocambolesque. Vous voyez, quand j'appuie une sonorité, eh bien, quand j'appuie un de ces boutons, c'est une sonorité particulière. Là, c'est une sorte de petite flûte, mais je peux avoir une sorte de sonorité qui ressemble à une trompette. Eh bien, ces différentes sonorités, je les choisis, je les mélange, j'en fais un petit peu sur ma petite cuisine, et ensuite je peux les programmer à l'intérieur de cet ordinateur qui est cet écran tactile, ce qui me permet de faire tous ces enregistrements et de les retrouver. Alors, c'est une des possibilités de cet écran, mais il y en a un tas d'autres. C'est un instrument qui est très complexe hein, et qui offre énormément de possibilités, notamment pour le répertoire contemporain. Alors là, écoutez, je vais repartir donc dans mon espace. Moi, je suis déjà dans mon espace, donc voilà. Écoutez, il suffit que je tape un numéro. Et voilà, normalement, c'est bon. J'ai des registrations qui étaient préprogrammées, qui sortent. Vous voyez, c'est une sorte de flûte. Et maintenant, je vais aller sur les fonds. Donc, c'est un petit peu les cordes de l'orchestre. Et donc, maintenant, je vais ajouter progressivement les jeux. Thank you. Ça vous fait permettre d'entendre différentes sonorités, en tout cas une sorte de crescendo. Voilà, comme ça vous entendez un petit peu toute l'amplitude de l'orgue. Bien sûr, il y a encore vraiment beaucoup plus orchestral. Hein. Je peux vous faire entendre des jeux qui vont vraiment venir imiter le son de l'orchestre. Comme par exemple, vous voyez le hautbois. Qui va donner lieu en même temps au cor anglais. Et une clarinette. Et des sonorités qui sont très typiques de l'orgue, qui sont des sortes de mutations. Donc c'est des sonorités assez aiguës, qui sont presque des couleurs de synthétiseur. Voilà, donc vous savez, des couleurs, il y en a vraiment à l'infini. Après, c'est à l'organisme de choisir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de temps de répétition, parce que justement, il faut trouver les meilleures couleurs qui se marient. C'est un petit peu comme un travail de cuisinier.
À quoi ressemble la partition, Thomas Hospital? Parce que j'imagine que vous devez noter beaucoup de choses. Puis en plus, là, il y a un écran qui vous permet de contrôler quoi. C'est les...
Alors justement, ça, ce sont les différences. Alors les partitions, généralement, les partitions d'orgue sont sur trois portées, généralement. Deux portées qui sont pour les mains, un petit peu comme une partition de piano. Et vous avez une portée en dessous qui va indiquer la partie de pédale. Parce que vous voyez au-dessous de moi, là, il y a un pédalier. En fait, je ne sais pas si vous constatez, mais c'est exactement comme un clavier qui est plus large. Regardez, là, par exemple, je ne joue qu'avec mes pieds et je peux jouer une mélodie. Voilà, je peux jouer donc soit des mélodies, soit évidemment les sons les plus graves de l'orgue aussi. Voilà. Et donc, c'est évidemment une partie musicale en plus. Donc, c'est noté sur une portée spécifique qui est une troisième portée. Ensuite, comme vous voyez, donc, tous ces jeux, alors, suivant les époques, les sonorités sont plus ou moins spécifiées. À l'époque baroque, par exemple, c'est relativement libre au choix de l'interprète. Et plus on avance dans le temps, plus on devient extrêmement précis sur les couleurs que l'on veut. Même, je dirais presque à outrance, parce que finalement, comme vous constatez, chaque instrument est différent. Donc, il est impossible de retrouver la même sonorité d'un instrument à un autre. Donc, ici, il faut ensuite faire des adaptations. Et donc, effectivement, comme je vous disais, je peux programmer toutes ces registrations. Et donc, sur l'écran qui est en face de moi, m'affiche justement les registrations que j'ai indiquées ou bien le niveau d'ouverture des boîtes, parce que certains claviers sont enfermés dans des boîtes, ce qui permet de faire des nuances. Et donc, je peux doser un petit peu le volume que je souhaite grâce à l'expression de ces volets.
Oui, il y a des volets qui s'ouvrent.
Exactement.
Là-haut, d'accord.
Voilà. Et donc, je les gère ici au niveau de l'écran.
Et Thomas Hospital, cet instrument qu'on a ici, qui a été conçu par le maître facteur Gerhard Grenzing, il vous permet de faire des sons que les orgues du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle ne permettaient pas de faire, j'imagine.
Absolument. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui est vraiment tout à fait saisissant à cet instrument. Si vous voulez, l'orgue fonctionne un petit peu sur le principe de la flûte à bec. Autrement dit, vous devez souffler dans un tuyau, enfin, plus précisément du vent va dans un tuyau, mais je vous laisse imaginer que ce vent est à pression constante, exactement comme, je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être avoir fait de la flûte à bec à l'école, vous vous souvenez de ces moments douloureux, surtout pour vos parents. Surtout, il était important de souffler avec une pression constante pour avoir une note d'une certaine justesse. Eh bien, l'orgue, c'est exactement le même principe. Sauf qu'ici, le facteur d'orgue s'est dit, eh bien, ici à Radio France, je vais proposer quelque chose. Je vais avoir un des claviers, qui est ici donc le premier, et vous voyez, quand j'actionne ce bouton qu'on appelle effet du vent, eh bien justement, je peux jouer grâce à cette pédale sur le niveau de pression que je vais mettre. Alors regardez, je vais tenir un accord, voilà, ici un accord de Do majeur, et je vais maintenant progressivement baisser la pression. Vous allez voir le spectre, comment il est en train de se diluer.
Oui.
Vous entendez toutes les harmoniques, la richesse des harmoniques qui se libèrent. Ça, c'est vraiment, c'est très très rare. Il y a très peu d'instruments qui ont cette option en tous les cas. Et ça va être vraiment très intéressant parce qu'on va jouer vraiment sur les hauteurs du son, ce qui est normalement impossible à l'orgue.
Thomas Hospital, vous êtes diplômé du Conservatoire National. Vous avez obtenu 5 premiers prix en orgue, en improvisation, harmonie, contrepoint, fugues et formes. Parmi vos professeurs, Thierry Esquèche, quelle place est-ce que ce compositeur tient dans votre formation ?
Alors, il tient une place très très importante parce que Thierry Esquet, je dis toujours, je le considère presque comme un deuxième père. Hein. J'ai une très forte relation avec lui. Il m'a appris énormément de choses puisque j'ai eu la chance de l'avoir à la fois comme professeur d'improvisation, mais aussi comme professeur de fugue et forme. Et j'ai aussi beaucoup joué de ses œuvres, notamment je viens d'enregistrer un disque pour le label Tempérament Radio France où je joue certaines de ses œuvres. C'est quelqu'un qui m'a tout de suite compris déjà, c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation assez évidente, qui m'a compris, qui m'a beaucoup apporté aussi, qui a su à la fois me canaliser, qui a su à la fois me donner un peu d'ordre dans les idées, notamment dans l'improvisation, etc., qui a réussi réellement à me construire avec le charisme et la générosité qu'on lui connaît.
Thomas Hospital, vous êtes né dans le Pays Basque en 1990. Je crois que votre mère tient un restaurant, votre père, lui, est chaudronnier, il façonne des pièces de métal. Ouais. Donc là, on voit presque déjà le rapport à l'orgue qui se dessine. À quel moment est-ce que vous accédez pour la première fois à un orgue ?
Alors, j'accède à la musique, de manière générale, assez tard. J'accède à la musique quand j'ai 10 ans. J'accompagne mon père qui chante dans une chorale paroissiale de mon village, à Ayers. Et il se trouve que le chef de chœur me propose d'aller au clavier et de donner le ton au chanteur, alors que je ne sais ni jouer, ni lire la musique, ni quoi que ce soit. Mais je me souviens qu'il prend ma main et qu'il la pose sur le clavier en me disant « voilà, ça c'est l'accord qu'il faut donner pour donner le ton ». Eh ben, je m'y suis pris au jeu et j'ai vraiment apprécié faire ça. Et il y a eu comme une sorte de cupidon, une sorte de d'amour immédiat pour cet instrument qui me fascinait par sa complexité, ses nombreux claviers, ses boutons, enfin qui n'avait rien à voir évidemment avec l'orgue de Radio France. Mais tout de suite, il y a eu quand même une sorte de magie qui s'est opérée. Et ensuite, la suite, vous l'avez décrite.
Vous le disiez, vient de paraître un nouvel enregistrement qui a été capté justement ici, à Radio France, où vous confrontez des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Prélude des fugues, de Thierry Esquet, Six études chorales. Quelle convergence, puisque c'est le titre du disque, est-ce que vous vouliez mettre en évidence ?
Eh bien, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu cette relation qu'il existait, par exemple, avec le travail qu'a fait Jean-Sébastien Bach au travers des chorales. Par exemple, je joue aussi un des chorales qu'il a écrit. Alors, qu'est-ce que c'est un choral? En fait, un choral, donc, c'est le chant protestant. Et en fait, sur cela, Jean-Sébastien Bach a composé beaucoup de préludes de chorales. C'était des sortes d'œuvres qui servaient d'introduction au chant et qui étaient à partir de ce choral, à partir d'une mélodie donnée. Était un chant. Eh bien, Thierry Esquet a eu une commande par le diocèse de Ratingen il y a quelques années pour faire ses six chorales études. Eh bien, ils s'inscrivent complètement dans cette tradition qui est celle de prendre une mélodie de chorale qui existe et de proposer une vision contemporaine autour de ce chorale. Et donc, c'était cette relation qui m'intéressait, en tout cas, de mettre en parallèle. Alors en fait, ces visions sont des improvisations qui sont en fait des sortes de... Comment dire? Ce sont des séances, vous imaginez, des séances d'enregistrement qui se faisaient de nuit, très très tard. Et vers la fin, je crois que c'était les dernières choses que nous avons enregistrées, vraiment très tard, je pense qu'il est 3h, 4h du matin, vous savez, au moment où vous ne savez même plus quel nom vous avez, vous ne savez plus si vraiment vous existez, vous êtes une sorte de cadavre vivant. Bien, c'était mon cas. Et puis, je me suis dit, je vais improviser sur BACH, mais avec tout ce que j'ai eu pendant ces quelques jours d'enregistrement, vous savez, avec toutes ces musiques que j'ai eues. Je n'avais pas vraiment préparé grand-chose, je dois dire, quelques sonorités comme ça, que j'avais donc programmées, et je me suis dit, voyons ce qu'à 4h du matin, elle va sortir, avec toute la musique qui s'est mélangée un petit peu dans ma tête, et avec l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et en fait, voilà pourquoi c'est des visions, parce que finalement, c'était une vision à un état précis, c'est un moment donné, et c'était avec tout ce que j'avais pu ingurgiter, avaler, tout ce que j'avais pu profiter, en tout cas, pendant ces périodes d'enregistrement. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'elles sont des visions. Et des visions sur BACH, pourquoi ? Parce que j'ai utilisé...
BACH, Bach. Hein.
Bien sûr. BACH, c'est bien sûr 4 notes de musique, en fait. C'est le nom de Bach, il donne 4 notes de musique, qui sont Si bémol, La, Do, Si bécard. Voilà, donc vous voyez, c'est un motif qui est relativement chromatique. Alors... Beaucoup de compositeurs l'ont utilisé, hein. Liszt l'a utilisé, Schumann l'a utilisé, on dit même que Bach a signé certaines de ses œuvres avec ces 4 notes. Eh bien, moi j'ai voulu, bien modestement, mais j'ai voulu voir qu'est-ce que ce thème pourrait m'apporter. Et c'est vrai que par finalement, ce côté extrêmement minimaliste, ces quatre notes extrêmement rapprochées, elles s'offrent une grande possibilité de s'en échapper, de s'en extraire. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai utilisé ces quatre notes.
Et on entend là un extrait de la sonate en trio en ut mineur BWV 226 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Thomas Hospital. On peut le retrouver sur le disque Convergence qui est édité chez Radio France Tempérament. Pour ceux qui veulent entendre Thomas Hospital, il jouera demain à l'église de Saint-Eustache. C'est dans le premier arrondissement de Paris pour les messes de 11h. Et le service de 18h. Et puis, autre registre, là, ce sera à l'auditorium de Radio France pour un récital, justement, dans le cadre du festival Présence. Ce sera le 11 février, festival qui vous met à l'honneur, Thierry Esquèche. Alors, puisqu'il dit voir en vous un second père, quel genre de fils il est pour vous?
Mais c'est un fils turbulent, c'est ça qui est bien. C'est que Thomas, en fait, il a la vivacité que vous entendez là quand il joue, quand il présente. Il l'avait en cours, donc ça fait partie des élèves dont je me souviendrai toujours, parce que pour moi, il m'a marqué. Vous savez, quand on fait de l'enseignement, si je continue à faire de l'enseignement, c'est pas pour des raisons pour gagner ma vie, parce que je dis, je peux la gagner différemment. En faisant des concerts, mais j'en ai besoin. Et j'ai besoin de ces rapports que j'ai avec des gens comme Thomas Hospital, qui ont été vraiment à la fois affectivement, le rapport est fort, et donc il y a un échange, mais musicalement aussi. Quand on a quelqu'un, il faut être à la hauteur de quelqu'un qui est aussi vif, qu'aussi imaginatif, pulsionnel aussi, et donc il faut être à la hauteur, donc il faut se renouveler pour enseigner. Donc il faut se donner des choses. Donc en fait, ce genre d'élèves, en fait, ils vous aident à vous renouveler. Et j'espère que je l'ai un petit peu fait, parce que je l'ai eu au moins pendant 5 ou 6 ans. Donc j'espère qu'au bout du compte, voilà, il retiendra toujours que je ne l'ai pas enquiquiné pendant 6 ans, on va dire la même chose.
Thomas Hospital, quand il nous montrait le fonctionnement de l'orgue de Radio France, sur lequel il a enregistré ce disque, il nous a montré le jeu, alors ça j'ai adoré, de voix céleste. C'est un registre, qu'est-ce que c'est, voix céleste? Puis il y en avait un autre qui s'appelle Larigot. Ça vient de là, le Thiers Larigot, Thierry Esquèche?
Oui, en fait, tous les instruments. Vous savez, les jeux d'orgue, ils portent les noms de cromornes, par exemple. Cromornes qui sont des vieux instruments qu'on entendait soit dans les musiques populaires, soit dans les musiques de médiévales. Ils ont donné le nom à des jeux d'orgue. Donc, effectivement, ce sont des instruments, souvent des instruments anciens. Alors, un orgue, si vous voulez, tout simplement, ça vous... C'est censé être un petit orchestre, donc vous avez le jeu de trompette, le jeu du hautbois, de basson hautbois, et tous ces jeux, ils ont une fonction. Ils vous rappellent l'orchestre, mais ils vous le rappellent différemment. C'est-à-dire qu'une trompette, évidemment, ça va pas sonner comme une trompette d'orchestre, mais ça quand même un petit peu, ça va ressembler, ça va être une ange qui va avoir. Et je pense que ce qui est intéressant quand on est organiste, c'est de faire sa cuisine et de choisir d'aménager sa trompette avec ce larigot, ce bourdon avec ce. Et c'est ça qui est passionnant. On est un cuisinier qui met un peu les épices, qui choisit, qui mélange. Et c'est vrai qu'il y a un côté, alors il y a un côté presque mégalomane hein, quand vous avez un orgue. Il y a, je sais plus combien de joueurs à Radio France, mais il y en a peut-être 80 ou 90. Alors à Notre-Dame, il y en a 120, je ne sais quoi. Il y a des orgues, mais aux États-Unis, il y en a 200, 300. Là, l'orgue de l'organisme devient carrément une sorte de démiurge en train d'essayer toutes les combinaisons. On le voit en train avec les cheveux hérissés. C'est vrai qu'il y a quelque chose, une idée.
Bah, François,
on retrouve chez Nosferatu, on retrouve dans le fantôme de Le Parent, on regarde des organistes.
Ils sont souvent un peu perchés. Voilà.
Ils sont perchés, oui, à tous les niveaux.
Vous êtes toujours co-titulaire du grand orgue de l'église Saint-Étienne-du-Mont, près du Panthéon?
Tout à fait. Je, assez régulièrement. régulièrement, pas toutes les semaines, vous en doutez, vu mon calendrier de voyage, mais je suis avec Vincent Varnier, on partage le poste depuis maintenant 20 ans. On vient de fêter nos 20 ans de co-titularité de cet instrument, où on succède à une belle figure qui a marqué 7e du monde, qui est Maurice Duruflé.
Compositeur et organiste. Oui, je crois qu'il y a exercé de 1930 à 1986.
Donc... Voilà, et on ne lui a pas succédé directement, mais sa femme a été là, un autre organiste aussi a été, mais on a que succédé, on prend en relais cette... Il y a une histoire à Saint-Étienne du Mont, une histoire musicale qui est assez forte et qu'on essaie de continuer comme on le peut. Et cette église est un havre de paix, c'est une église sereine dans Paris, pour ceux qui sont parisiens, des auditeurs, elle n'est pas très grande par rapport à deux églises à côté. C'est une église assez, dans le quartier latin, donc assez jeune, avec tous ces gens du lycée Henri IV qui sortent. C'est une église jeune, c'est une église sereine, c'est une église qui est claire. C'est vraiment une architecture, un mélange architecture baroque, post-médiévale. Et vraiment, c'est un lieu fantastique, très inspirant.
Un musicien a sa façon personnelle de s'exprimer, dont il ne peut se dépouiller absolument, quel que soit le sujet qu'il traite. J'ajoute que je n'ai pas repris le terme de musique profane parce que je pense qu'il n'y a pas de vraie musique profane ni de vraie musique sacrée, mais une réalité unique vue sous des angles différents. Une citation du docteur Alexis Carrel, je la fais de mémoire mais le sens y est. Un homme qui prie, prie avec son âme, mais aussi avec son sexe et avec son cerveau. Le musicien religieux ne peut donc pas plus oublier qu'il est un homme que l'homme charnel oubliait qu'il est un musicien religieux, ce qui explique une certaine analogie de pensée et de langage, quoique le sentiment exprimé soit très différent.
Olivier Messiaen, interviewé en 1957 sur la chaîne nationale. On n'oublie jamais son sexe ou sa chair, même quand on compose ?
Oui, alors si Messiaen le dit, alors s'il en est à le dire, alors là je ne peux que l'approuver, hein, je vais pas commenter les propos même de Messiaen. Mais évidemment, je veux dire ce qu'on fait, vous savez, quand on fait une musique et beaucoup de compositeurs le font, je sais pas, organique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces sortes de pulsions, on les met justement en scène, ce sont des espèces de grandes montées et autres. Donc ça a quelque chose effectivement d'à la fois de sexuel, à la fois donc de sensuel, qui peut se mélanger justement au mystique, et c'est ça que d'où vient l'intérêt. On parlait tout à l'heure de gens comme Pasolini, c'est ce qui est intéressant, c'est ce mysticisme sensuel. Mais du reste, et quand on écoute bien la musique de Messiaen, ça y est, qui disait que la musique de Messiaen était une musique du bordel d'ailleurs? Je crois que c'est un compositeur de dire. Comme quoi, non mais pourquoi, c'était pas sans pas qu'il aimait beaucoup, je me souviens plus exactement qui disait ça.
Qui a un peu osé quand on sait le
oui,
le
non, mais justement, mais c'était intéressant, mais d'une certaine manière, oui, peut-être d'ailleurs, mais c'est une musique que moi j'adore personnellement, donc j'en dis pas du mal, c'est une musique vraiment très forte, mais justement qu'il y a ça déplaisait à certains tenants de l'avant-garde parce que on percevait, même dans des musiques assez complexes comme celle de Messiaen, on percevait cette sensualité, même dans ses communions extatiques ou dans ses la Turanga et la Haute. Et c'est vrai que chez Messiaen, c'est d'une sensualité invraisemblable.
Et on en restera sur ces mots-là. Merci Thierry Escaich de vous être prêté au jeu du portrait avec celui qui vous sera consacré durant tout ce festival Présence à Radio France. Ça commencera mardi 6 février jusqu'au dimanche 11 avec de nombreux concerts, performances et invités. Vous serez même à l'Orgamone à un moment avec un musicien de jazz. Toute la programmation est à retrouver sur la page internet de Continent Musique. Vous aurez toutes les références des musiques que vous y avez entendues. Et puis, ne pas oublier aussi votre album Baroque Song qui vient de paraître chez Sony Classics. Merci à Tomé Hospital de nous avoir reçus dans l'auditorium de Radio France, où il jouera, lui, le dimanche 11 février. On se quitte, mais avec une musique funéraire du côté de Bali, avec le gamelan ou gamelan Bele Kanjur. Gamelan of the Walking Warriors, un disque de musique de cérémonie funéraire balinaise. C'est édité sous le label Acouphone. Ça vous intéresse ce genre d'orchestre?
Oui, ce genre de musique, surtout, tout simplement, vous savez, les Amérindiens disent souvent, les Navarros par exemple, qu'on arrive à la beauté, la perception de la beauté qui est tout autour de nous, par la transe, par l'hypnose d'une certaine manière, quelque chose d'hypnotique, mais une danse sans cesse répétée où le corps participe pour arriver à la découverte de la beauté. Je pense que ça en est vraiment un bel exemple là.
Merci Thierry Esquech. Continuons Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet. À la prise de son ce soir, Sandrine Malon. Ça c'était pour l'auditorium et pour le studio 108 ce soir, Anthony Thomasson. À la mise en onde, Olivier Guérin. Merci Antoine Vuillose de la discothèque de Radio France ainsi qu'Annie Lozana de l'INA. Les programmes continuent sur France Culture avec Mauvais Genre de François Angeli à 22h. Mais tout de suite, Les Papous dans la tête de François Stressart et Samedi Noir.